Bonsoir, comment allez-vous?
Allô? Oh, que c'est gentil, ma poulette, de prendre des nouvelles de tes parents.
Bon, tu sais, on va comme des vieux. Ta mère écoute France Inter, ça me fait un peu de répit. Le docteur veut plus que je sorte, soi-disant que je suis gros. Je vois pas où c'est qu'il a vu ça. J'ai pas changé de taille depuis mon mariage, je suis pas gros. Mais, tu sais, c'est des histoires de mode. Vous, les jeunes, vous voulez des hommes qui pleurent, qui soient maigres, qui parlent, qui lisent. On a déjà les femmes pour ça. Si ça vous amuse, si ton mari il veut faire du vélo dans votre chambre, moi ça me dérange pas, hein. Nous, on faisait autre chose. Me faire les courses. Oh, ma fillotte, avec tout ce que t'as à faire, t'es bien mignonne, tu sais. Je vais te chercher ma liste. Alors, prends-moi du whisky bio. Mais non, la semaine dernière, c'était du bourbon, ça n'a rien à voir. Mais vraiment, vous y connaissez rien. Prends-moi 4 belles tranches de pâté en croûte bio, 2 parts de boudin noir bio, une longueur de saucisse sèche bio, et puis tant que tu seras chez Guérin, prends-moi un bel os à moelle, dis-y que c'est pour moi. Puis si t'as du temps en face, chez Bel Air Jolitaire, prends-moi 500 grammes de fromage, tu sais, gruyère suisse, Beaufort d'été, comté. On va se faire une petite fondue avec ta mère. Elle veut pas. Oh, tu sais, la pauvre, avec tout ça, elle yoyote un peu. Elle dit que je mange gras. C'est n'importe quoi. Je peux pas manger gras puisque je mange bio.
Bonjour, je m'appelle Malia, j'ai 7 ans. Et je voudrais savoir pourquoi les fruits et les légumes qui sont bio sont chers et les fruits et les légumes qui ne sont pas bio sont moins chers. Au revoir et merci.
Donc, Malia, à 7 ans, c'est toi qui gères le budget familial. Je dis bravo. Ou alors peut-être, il y a eu un souffleur ou une souffleuse à qui on dit bravo aussi finalement. Marc-André Sellos, vous êtes professeur du Muséum National d'Histoire Naturelle, vous êtes spécialisé en botanique et en mycologie, c'est-à-dire en plantes et en champignons, et vous avez écrit « Jamais seul, ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations » chez Actes Sud. Bon, quelle que soit l'origine de la question, c'est vrai, on achèterait tous du bio si c'était pas si cher. Alors Malia demande pourquoi le bio c'est plus cher.
Alors, bon, c'est pas toujours plus cher, hein.
C'est
mais
vrai.
C'est surtout que quand c'est pas bio, c'est pas moins cher. C'est juste qu'il y a une partie du prix que tu payes pas au même endroit, Malia. Je m'explique.
Ah.
Le bio, on n'utilise pas de produits chimiques. Or, ces produits chimiques, par exemple des engrais ou des choses qui tuent les insectes ou les champignons parasites, ce qu'on appelle les insecticides, des fongicides, bref, la grande galaxie des pesticides, hein, tout ça, ça aide à produire les plantes, elles poussent mieux, il y en a plus, et en fait, comme on en a plus et que les coûts sont plus ou moins fixes, c'est moins cher. Mais ça, c'est pas mal, parce que ça a permis de nous nourrir avec finalement une nourriture pas trop chère. Le problème, c'est que ces molécules, et notamment les pesticides, ont une toxicité. On va les retrouver dans les eaux, par exemple. On a beaucoup d'eaux qui sont polluées par de l'atrazine.
Les eaux EAU.
Oui, les eaux douces. Voilà, les eaux. On a aussi un grand scandale dans les bananeraies des Caraïbes avec la chlordécone qui a intoxiqué les sols et ensuite c'est passé dans l'eau et maintenant on peut même plus pêcher au large de ces îles-là. Donc, il y a une toxicité de ces molécules qui est une toxicité qui finalement est une toxicité pour nous quand on en mange, parce qu'il reste un petit peu de pesticides, et puis aussi pour les agriculteurs, qui par exemple ont des niveaux de leucémie ou de cancer de la prostate qui sont bien supérieurs à ce que leur qualité de vie laisserait attendre. Donc il y a une sorte de toxicité de ça, et un jour, il y a des frais de santé. Donc si tu mets les frais de santé dans l'addition, les produits pas bio sont plus chers. Mais quand tu vas au marché, tu ne payes pas les problèmes de santé induits. Or, quand tu manges bio, il n'y a pas de problème de santé. Donc, tu payes le vrai prix. Alors, en plus, il y a un autre problème, c'est que comme c'est un peu mode, les intermédiaires revendent un peu plus cher parce qu'il y a une demande ou il y a un public aisé qui peut acheter. Donc, ce prix, il est aussi bâti, pas seulement sur le prix de revient. Il faut se méfier de ça. Mais surtout, à la base, il faut comprendre que le prix du pas bio, ce n'est pas le prix qu'on paye au marché ou dans le magasin. C'est ce prix-là plus le prix des ennuis de santé. Et des ennuis qui peuvent être graves, parce que je parlais tout à l'heure de la chlordécone. On a des pêcheurs aujourd'hui en Guadeloupe que l'on paye à rester chez eux parce que les poissons sont intoxiqués par les résidus des pesticides venus de l'agriculture.
C'est un prix.
Exactement. Donc il est urgent de bien savoir comment est produit ce qu'on mange et quelles sont les implications de la production. Parce que aujourd'hui, notre carte bleue, c'est elle qui peut changer le monde et la façon dont on gère les systèmes agricoles et d'ailleurs aussi la pêche.
Alors vous avez donné, Marc-André Sellos, une explication de scientifique, c'est ce qu'on vous demande. Mais moi je vais donner une explication de cuisinière. Souvent le pas bio fond. Quand vous mettez un lardon ou une tomate dans une poêle, votre lardon, en quelques secondes, il devient tout petit en lâchant beaucoup d'eau. Et idem pour la tomate.
Pour faire simple, on pourrait dire que si vous voulez la même qualité que le bio en pas bio, vous allez devoir acheter des produits pas bio qui sont aussi chers ou plus chers. Parce qu'effectivement, il y a du pas bio de qualité, au niveau gustatif, ça existe, mais c'est pas le tout venant. Et donc, si maintenant vous vous mettez sur une approche de qualité, je suis pas sûr que bio ou pas bio, il y ait une différence de prix à qualité égale.
Voilà Marc-André Sellos, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, a écrit « Les goûts et les couleurs du monde, une histoire naturelle des tanins, de l'écologie à la santé » et c'est édité chez Actes Sud. Vous connaissez le principe des petits bateaux, des enfants posent des questions et nous trouvons des spécialistes pour leur répondre.
Bonjour, c'est Thibault. J'aimerais savoir si les rois de France se tatouaient ou si cela ne se faisait pas à l'époque.
Alors, Jérôme Pierrat, spécialiste du tatouage, vous êtes d'ailleurs rédacteur en chef de Tatouage Magazine. Est-ce que les rois de France se tatouaient, demande Thibault ?
Alors, les rois de France, non, mais l'aristocratie européenne dans son ensemble, oui. Alors, en fait, à partir de... Il y a une mode pour les têtes couronnées en Europe, c'est au tournant du 19e et du 20e siècle, aux alentours des années 1900. Alors, tout simplement, elle a été lancée par les souverains anglais, cette mode, puisque... Les princes de Galles et consorts, avant de devenir rois, étaient envoyés pour leur formation au service militaire et notamment dans la marine. Et la marine anglaise, grande tradition de tatouage, les marins anglais sont très friands de tatouage. Et donc ces rois, enfin ces princes, quand ils effectuaient leur service à bord de ces navires de la royale, et ben pour ressembler et pour pas qu'il y ait trop de distinguo entre eux et l'homme de base, hein, en gros, ils adoptaient les coutumes et les traditions de leurs hommes et donc ils se faisaient tatouer pour être des marins comme les autres. Alors, c'est parti de là. Et puis, les autres souverains des cours européennes, voyant ça, en tout cas, souvent les plus jeunes, les futurs héritiers, voyant ça, ont adopté la coutume. Alors, il y a eu des tatoueurs qui s'étaient spécialisés, c'était les tatoueurs anglais, on les citait, même si ça ne dira plus grand-chose à personne aujourd'hui, mais Tom Riley, George Burchett, qui étaient les grands tatoueurs de Londres à l'époque, c'est eux qui tatouaient les souverains. Alors on venait du Danemark, on venait de Grèce, on venait de Russie, on venait d'un peu partout, on peut citer quelques exemples après, pour se faire tatouer. Alors George Burchett, on l'appelait le roi des tatoueurs, le tatoueur des rois, voilà, puisqu'évidemment il exhibait dans son book de l'époque à peu près toutes les têtes couronnées.
Il avait pignon sur rue à Londres.
Exactement, ils avaient des studios qui avaient ouvert à la fin du 19e siècle, ces gens-là. C'était vraiment des pionniers dans le monde du tatouage. C'était long, c'était cher. C'était douloureux, donc il fallait une vraie démarche. Il y a Nicolas II, tsar de toutes les Russies, qui s'est fait tatouer. Il y a Georges Ier de Grèce qui s'est fait tatouer, donc il était roi de Grèce. Sa femme s'est fait tatouer, son fils, son petit-fils. Alors là, c'était familial, c'était presque tribal. Il y a eu le roi du Danemark, qui était particulièrement friand de tatouage. Lui, il avait la cour du Danemark, qu'ils avaient commencé en 1906, c'était son père. Et puis lui, c'était à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, le fiston qui avait repris les rênes du royaume. Lui s'est fait tatoué. Alors, il s'exhibait même dans les magazines anglais. On le voyait avec... Il s'était inspiré d'une tapisserie chinoise. C'était le fameux George Burchett qui l'avait tatoué. Alors, il avait un gros dragon sur la poitrine. On avait plein les bras, les jambes, etc. Donc, il y a eu un Français, puisque l'origine de la question concerne la France. Bernadotte, qui était un maréchal de France, de Napoléon, à qui Napoléon avait confié, enfin donné en récompense les royaumes de Suède et du Danemark. Et donc, lui s'est fait tatouer. Avait été tatoué, en fait, du temps où il était à la tête de ses grognards. Et il avait notamment un tatouage assez marrant, puisque c'est son médecin qui l'a découvert à l'orée de sa vie. Il avait mort au tyran tatoué sur le bras. Donc, voilà,
mort au tyran, donc il n'aimait peut-être pas tant Napoléon que ça.
Voilà, et pour un futur roi, c'était un peu délicat. Oui.
Comme quoi, il ne faut pas dévoiler son intimité. Jérôme Pierrat est aussi journaliste spécialisé en criminologie. Il a écrit, édité chez Le Lombard, « Le tatouage, histoire d'une pratique ancestrale ».
Le jour je fais des efforts, quand la ville dort, v'là les rêves, v'là les rêves, v'là les rêves que je fais de toi. Le jour je bats les records, mais quand change le décor, v'là les rêves, v'là les rêves, v'là les rêves que je fais de toi. Et je voudrais que ma tête là cesse de tourner comme un manège de bois. Mais je voudrais que ma tête là cesse comme un manège de bois, mais je voudrais que ma tête là, ça cesse de se jouer de moi. Le jour je suis matador, hélas la nuit frappe fort. V'là les rêves, v'là les rêves que je fais de toi. La journée m'est indolore. Hélas quand la nuit me mord. V'là les rêves, v'là les rêves, v'là les rêves que je fais de toi. Et je voudrais que ma tête là cesse de tourner comme un manège de bois. Mais je voudrais que ma tête là cesse de se jouer. Je voudrais que ma tête là cesse de tourner comme un manège de bois. Mais je voudrais que ma tête là cesse de se jouer de moi. Ah, je voudrais que ma tête là cesse de tourner comme un manège de bois. Mais je voudrais que ma tête là cesse de se jouer de moi. Se jouer de moi. Se jouer de moi. Oh, oh, oh. Se jouer de moi.
Cette jolie voix est celle de Clou. Oui, Clou, c'est son nom. Et la chanson, Cesse.
Les petits bateaux sur France Inter.
Qu'est-ce que vous faites quand vous voyez une araignée sur le mur? Vous allez dormir dans la voiture? C'est une solution. Là, il ne s'agit pas de l'araignée qui fait peur.
Bonjour, je m'appelle Camille. J'ai entendu dire qu'on pouvait faire des vêtements avec des toiles d'araignée. Et donc j'aimerais savoir de quoi est faite cette soie et comment cette prouesse est capable. Merci de votre réponse, au revoir.
Bonsoir Camille, c'est vrai que c'est étrange hein, cette question de vêtements en toile d'araignée. Christine Rollard, vous êtes biologiste, vous êtes maître de conférence au Muséum National d'Histoire Naturelle. Alors Camille parle de vêtements avec des toiles d'araignée, se demande comment ça se peut.
Eh ben effectivement, en fait, Camille a raison. Hein. Donc, il a entendu dire qu'on pouvait faire des vêtements avec de la soie plutôt que de la toile d'araignée, puisque toutes ne font pas de toile. Il y a très longtemps que l'homme s'est rendu compte qu'il y avait quand même un certain nombre de propriétés pour cette soie. Il y a eu quelques vêtements qui ont été faits il y a très longtemps, parce que la première école d'araignéiculture, c'est-à-dire de culture ou d'élevage d'araignées, a vu le jour en 1896 à Madagascar, à Tananarive. Ils ont pris d'énormes araignées qui font des belles toiles géométriques en soie jaunâtre. Ils les ont élevées dans des petites cages individuelles et ils tiraient les fils des araignées, donc ils sortent par des tubes au bout de l'abdomen, et ils enroulaient ça à l'époque autour d'un rouet. Et ils ont fait quelques pièces de tissu dans des vêtements, des écharpes, des gants et un baldaquin de lit pour l'exposition universelle de 1900. Donc c'est quelque chose qui est connu depuis longtemps. Mais à l'heure actuelle, donc l'élevage des araignées, c'est quand même très contraignant. Il faut les élever dans des cages individuelles parce qu'elles peuvent se manger entre elles, elles sont cannibales. Il faut leur donner en fait des proies en parallèle et des proies vivantes hein, pour qu'elles puissent effectivement réagir donc à ces proies et aux mouvements en fait et aux vibrations. Donc c'était assez contraignant. Donc ils ont arrêté au début des années 1900 et ils ont continué à faire l'élevage des vers à soie depuis très longtemps de toute façon. Néanmoins, effectivement, on s'est rendu compte que cette soie pouvait être plus intéressante au niveau élasticité et solidité par rapport à celle du vers à soie. Et maintenant, il y a des équipes de chercheurs qui travaillent dans le monde sur reproduire une sorte de protéine ou une soie de synthèse qui éviterait d'avoir effectivement ces élevages d'araignées à faire qui sont quand même pas suffisamment rentables et trop contraignants. Donc effectivement, ces vêtements en soie ont existé et on produit de temps en temps, à l'heure actuelle, des pièces de tissu, on va dire.
Vous dites, Christine Rollard, toutes les araignées ne font pas de toile, mais est-ce que toutes les araignées font de la soie?
Alors toutes les araignées produisent de la soie. Les araignées, c'est vraiment un peu des usines à soie. Hein, donc elles ont plusieurs types de glandes à l'intérieur de leur corps qui vont permettre de produire des soies de types différents. Mais par contre, elles ne font pas toutes des toiles pièges, donc avec leur soie, pour capturer des proies. Et en plus, même les toiles, elles ont des formes différentes. Il y a des toiles en géométrique, il y a des toiles en nappe, il y a des toiles en réseau, il y a des toiles en tube. En fait, il y a une très très grande diversité et variété de pièges même en soie.
Et on peut pas élever des araignées. C'est pas un animal domestique. C'est pas facile.
Ah non, non, non. C'est pas un animal domestique. Hein. Elle n'est pas domesticable. Il n'y a pas de reconnaissance de l'araignée. Elle a un tout petit système nerveux, pas un cerveau comme nous. Hein. Et il n'y a pas de relationnel en fait entre une araignée et un humain. Donc elle va réagir aux moindres vibrations dans un terrarium, par exemple. S'il y a effectivement depuis les années 90 beaucoup de personnes qui ont pris ça comme des nacs, des nouveaux animaux de compagnie. Ah ouais. Et il n'y a vraiment pas de relation avec ces animaux-là.
J'avais lu quand j'étais jeune, évidemment ça remonte à quelques années, l'histoire d'un prisonnier qui déprimait dans sa cellule et finalement il avait retrouvé un peu le moral parce que tous les soirs à la même heure, une araignée arrivait et bon, ça lui tenait compagnie. Est-ce qu'ils avaient des relations? Je ne sais pas. Et je n'arrive pas, je n'arrive pas à me rappeler le titre de ce livre. Alors c'est pas très précis, plus précis quand même. Là, c'est à propos des araignées, la société Norface s'est associée à Spyber, une start-up japonaise, pour concevoir une doudoune qui est en soie d'araignée. Cette doudoune s'appelle Moon Parka. Et en 2015, elle était bien la doudoune, mais elle n'était pas imperméable. Et maintenant, ils ont fait des progrès grâce aux avancées technologiques et cette doudoune réalisée par la start-up japonaise en soie d'araignée est imperméable.
Bonjour, je m'appelle Claire, j'ai 8 ans et je voudrais savoir quelle est la différence entre l'écriture chinoise et japonaise. Merci de me répondre.
Bonsoir Claire, c'est Joël Bellassène qui est professeur. On vous dit professeur de chinois?
Oui.
Oui. Alors, la différence entre le chinois et le japonais?
Eh bien Claire, bonjour, c'est une très bonne question, parce qu'il y a d'abord l'écriture française avec des caractères, des lettres, qu'on appelle des lettres latines. Il y a l'écriture chinoise qui, elle, est faite de petits symboles. Quand on les voit, ces symboles, on ne peut pas savoir comment ils se prononcent, alors qu'avec les lettres, on peut, si on voit M-A, M-A-N, on peut savoir que c'est « maman ». Quand on voit le symbole chinois qui veut dire « maman », on ne sait pas comment il se prononce. Il faut que le maître, le professeur, nous dise « ça se prononce « ma ». ». C'est un petit symbole comme ce que l'on voit, comme des logos, comme des panneaux de signalisation au bord de la route, par exemple, pour dire « stationnement interdit » ou « stop » ou des choses de ce genre. Voilà, ça c'est l'écriture chinoise, elle est faite de plein de petits signes, de petits symboles. Et il y a l'écriture japonaise. Alors elle, c'est très curieux, elle mélange les deux écritures, c'est-à-dire les petits symboles chinois, d'une part, et également des sortes de lettres. Voilà, c'est comme si, l'écriture japonaise, c'est comme si en français, on disait « je vais voir », c'est comme si on écrivait « je vais voir ma », et au lieu d'écrire « maman », M-A-M-A-N, on mettait subitement le petit symbole chinois qui veut dire maman. Voilà, c'est un petit peu ça l'écriture japonaise. Donc ça mélange l'eau et le feu.
Un petit peu, Joël Bellassène, quand on laisse un petit mot à quelqu'un de sa famille, on lui met, je sais pas quoi, tu peux changer l'eau des fleurs, tu peux changer, puis pof, pof, on dessine de fleurs dans un vase.
Exactement, ou comme si parfois d'ailleurs ça se voit, que pour dire je t'aime, on met je, t, apostrophe, et ensuite on dessine un petit cœur. Alors le petit cœur, c'est un peu l'écriture chinoise, hein. Je simplifie, mais c'est un peu ça. Et le J-E-T apostrophe, c'est en tout cas, ça pourrait être des lettres japonaises.
Qu'est-ce que c'est, Joël Bellassène, qu'un idéogramme?
Eh bien, un idéogramme, c'est un symbole, un logo, mais attention, un logo qui est une écriture. Il y a plein de logos qui forment toute l'écriture chinoise. Alors que nos logos qu'on voit dans les magasins, à l'entrée, à la sortie, interdiction de fumer, une cigarette qui est barrée, ça ne peut pas constituer des phrases entières, etc. Mais sinon, un idéogramme, c'est bien ça. Ce sont ces signes chinois, alors qu'ils sont parfois simples, c'est-à-dire représentant une idée, l'idée d'arbre, l'idée d'homme, l'idée d'enfant, l'idée de pluie. Parfois, à l'intérieur d'entre eux, il y a plusieurs choses. Il y a le soleil et juste à côté, la lune. C'est un seul idéogramme, mais il est composé de deux choses pour dire lumière.
Dernière petite question, ça ressemble pas du tout quand on regarde les caractères chinois. Je ne sais pas si on dit des caractères.
Oui, des caractères chinois.
Je ne trouve pas que ça ressemble à une maison, à un soleil.
Bien entendu, il faut le savoir. Pourquoi? Parce que ça s'est simplifié, parce que cette écriture, elle est très ancienne. Il y a longtemps, on pouvait davantage reconnaître dans le signe enfant le dessin déjà un peu simplifié d'un enfant. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simplifié, beaucoup plus stylisé. Pourquoi ? Parce que ça doit être une écriture. Aujourd'hui, on écrit des lettres, on écrit des discours, on écrit sur un ordinateur du chinois, et le chinois peut permettre de dire tout ce que l'on peut dire en anglais, en français, etc.
On peut écrire Garépé en chinois ?
Bien sûr. Même le nom de ville occidentale, de pays, on peut écrire France en chinois, mais ce seront toujours des idéogrammes, des signes.
Drôlement intéressant, Joël Bellassène a écrit beaucoup de livres pour apprendre le chinois, dont un grand classique, une méthode d'initiation à la langue et à l'écriture chinoise. International de 1964 qui a donné les portes du pénitencier de Johnny Hallyday. Vous écoutez France Inter, les petits bateaux.
C'est Amy, j'ai 6 ans. J'aimerais savoir pourquoi les hommes détruisent les forêts. Merci, au revoir.
C'est une vaste question, Amy, que nous avons proposée à un ingénieur forestier, docteur en sciences, enseignant-chercheur et auteur d'un très beau livre sur les arbres édité chez Actes Sud, « Les arbres entre visibles et invisibles ». Pourquoi les hommes détruisent les forêts ? C'est un peu une question énorme qu'on vous demande de traiter en 3 minutes, mais bon.
Tout d'abord, la bonne partie de la réponse, tous les hommes ne détruisent pas les forêts. On a des peuples premiers qui vivent dans la forêt, de la forêt, et qui ont su trouver un partenariat avec la forêt en respectant la forêt, et en développant une culture ou des cultures multiples, que ce soit en Amazonie, chez les Patersorui, par exemple, ou les Achaninka, ou à Bornéo, les Penan, avec lesquels je suis un peu en affinité aussi. Ces peuples, ces cultures ont réussi à vivre grâce et avec la forêt. Et nous, maintenant, on arrive avec notre différente attitude face à la nature et... Là, c'est dramatique. On est en train d'entamer le patrimoine forestier du monde et il y a des endroits où c'est très, très dangereux d'entamer cette forêt, de déboiser, de déforester, de dévaster ces forêts, en particulier en Amazonie, où la forêt, si elle n'est plus là, n'est plus capable de gérer le climat du lieu, de cette partie du continent, mais qui a un effet sur le climat du monde dans son ensemble. On considère la forêt amazonienne comme étant un cœur climatique pour la Terre. Donc, pourquoi les hommes détruisent la forêt? Ces hommes qui la détruisent à cet endroit devraient être très rapidement arrêtés. Bonne nouvelle aussi, il y a des très grands programmes, non seulement de stopper, mais aussi de réafforester, de recréer des forêts là où elles existaient avant. Ce qu'on appelle le challenge de Bonn, le défi de Bonn, à partir des années 2010, par là autour, a réuni plus de 40 gouvernements qui ont identifié des surfaces énormes qui sont déjà réservées, de 350 millions d'hectares, qu'on veut reboiser. Et maintenant, on attend simplement les flux financiers dans cette direction. Et ceci va permettre de compenser une grande partie de notre trop-plein d'envoi de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Donc là, on a un outil, disons une action magnifique qui est en train de démarrer. Et en plus de ça, on a nos collègues agroforestiers à l'échelon mondial, mais surtout en France, les permaculteurs qui veulent réintroduire l'arbre et la forêt, les cordons bois et les haies, dans les zones agricoles qui ont été désertifiées par l'agro-industrie.
Les livres de Ernst Zürcher sont sur le site des Petits Bateaux. À propos de forêt, nous avons reçu au bureau ce curieux livre, L'homme chevreuil. C'est un récit. Marjorie l'a lu, elle l'a adoré, comme on ne se voit jamais. Elle m'a laissé ce petit mot explicatif. Guillaume Delorme, et moi je vous le lis, Guillaume Delorme est tout jeune homme quand il décide d'aller vivre un temps seul dans la forêt. Il y vit le froid, le printemps, la peur, la plénitude, la faim, l'amitié. Parce que Geoffroy établit un premier contact avec un chevreuil plus curieux que les autres, il va partager avec eux des connaissances, un mode de vie, des événements joyeux ou douloureux. C'est un peu le Jane Goodall du chevreuil. La relation unique qu'il entretient avec chacun d'eux nous ouvre les yeux et le cœur, non seulement sur le mode de vie de cet animal, mais sur le fait qu'ils sont aussi différents entre eux que nous le sommes, nous, humains, entre nous. J'ai lu à mon tour d'une traite aussi ce livre. Cet homme chevreuil, édité aux Arènes, est palpitant. Et quand vous verrez, peut-être à votre tour, un chevreuil, au détour d'un buisson, vous saurez que vous, vous l'intriguez autant qu'il vous intrigue. Peut-être arriverez-vous à faire le calme en vous et à lui parler dans votre tête. Geoffroy Delorme dit que les intentions se transforment en odeurs. Après ce brin de causette, vous ne serez plus le même. Vous prendrez conscience de vous, des bêtes, de la vie. Ce livre, sans nous faire la morale, ni nous faire perdre le moral, nous montre que la forêt est un monde, pas juste un lieu où on fait 10 000 pas par jour. Sur le site des Petits Bateaux, vous trouverez cette semaine un lien pour la vidéo d'un chevreuil qui fait quelque chose de tout à fait étonnant. Cette émission est à réécouter sur franceinter.fr. Marjorie de Vaucoux, Eliane Gérard, Noël Bréham, Stéphane Cohn, Jean-Baptiste Audibert et Philippe Duclos, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à 19h30. À suivre, Le Masque et la Plume cinéma avec Jérôme Garcin.